Il y a eu la présentation des terroristes, quand ils se lèvent. Donc c'est impressionnant, en fait. En plus, Salam Deslam qui a érupté direct. Là, j'ai eu peur, en fait. Il m'a fait peur. J'ai ressenti quelque chose de très physique. Je me suis vraiment tendue. Mais ça, c'est quelque chose d'assez perturbant. En fait, dès que lui, il parle, j'ai mon corps entier qui réagit. Et ça a commencé le premier jour.
Commencé le 8 septembre dernier, le procès des attentats du 13 novembre 2015 devant la Cour d'assises spéciale de Paris touche à sa fin. Après 9 mois d'audience, les participants ne sont forcément plus les mêmes. Ce 13 novembre, les attentats ont fait un total de 130 morts et plusieurs centaines de blessés. Des 10 membres des commandos ayant mené les attaques au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan, Salah Abdeslam est le seul encore en vie. Avec 13 co-accusés, il est confronté à plus de 2000 parties civiles dans la salle d'audience longue de 45 mètres, créée spécialement dans l'ancien palais de justice.
C'est extrêmement fort de se dire qu'une personne qui a tout perdu est encore en mesure de considérer qu'en dépit du chaos, il faut qu'un état de droit se manifeste. Il y a quelque chose de profondément humain qui émane de ce procès.
Pendant 9 mois d'une grande traversée, Sophie Parmentier a assisté à toutes les audiences aux côtés de ses parties civiles et des avocats. Elle a été témoin des larmes, des colères et de l'avancée de la justice dans ce procès historique.
Évidemment, tout le monde n'est pas dans cette salle d'audience. C'est un choix très personnel. Mais ça me fait du bien, ouais. Ça me fait du bien de rencontrer... Peut-être qu'on prend soin les uns des autres parfois, oui, c'est possible.
La puissance des témoignages de certaines des parties civiles a parfois conduit les accusés à sortir de leur mutisme. C'est le cas de celui de Nadia Mondeguer. Elle est la mère d'une des victimes attablées à la terrasse de la Belle Équipe. 13 novembre, l'humanité au bout du procès, c'est un reportage de Sophie Parmentier. Prise de son Alexandra Bergel, Julien Girard, Yves Lehors, Christophe Papon et Thomas Robin.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Voilà, alors là, c'est le pont neuf. Passage obligatoire. Parce que là, ça devient un rituel chez moi. Avant d'aborder le palais de justice, j'ai un temps d'arrêt ici. Et je me tourne vers la gauche. Je m'appuie au parapet, voilà, et là vraiment je prends de longues et profondes respirations et par l'esprit je vais rejoindre la mienne, qui je sais qu'elle fréquentait les quais de Seine, qu'elle adorait ça. Voilà ça, et j'ai besoin de ce temps d'arrêt avant d'aller m'enfermer dans la salle d'audience, voilà. Si j'ai le temps, je fume une cigarette. Je m'appelle Nadia et je suis la maman de Lamia, de Gwendal et de Johan. Voilà, Lamia était ma seconde. Voilà, et Lamia est partie le 13 novembre à 21h36, je pense. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est 36 ou 40. Derrière la maison, à 150 mètres de chez nous. Voilà.
Elle a été assassinée à la Belle Équipe.
Avec son compagnon, Romain. Et ils s'étaient donné rendez-vous ce jour-là, ou ce soir-là, pour se retrouver en amoureux. Et donc, ils se sont donné rendez-vous, là.
Est-ce que vous restez longtemps sur ce pont à penser à Lamia, votre fille ?
Oui. C'est le moment où je me connecte à elle avant de rentrer dans le palais.
Bon, on va continuer à cheminer sur ce pont qui enjambe la Seine. Et on a un certain nombre de barrages de sécurité à franchir. Alors là, on va devoir montrer nos badges. Alors là, on s'approche du deuxième barrage. Il y a un chien. Avec les gendarmes, le chien qui renifle tout le monde pour détecter s'il n'y a pas de la poudre explosive. Chaque matin, le chien nous renifle.
Bonjour messieurs.
Allez-y, un par un devant le chien.
Bonjour.
Je vous remercie.
Merci à vous, bonne journée.
Et donc là, on va monter les marches du palais, côté place Dauphine, marche de pierre blanche.
Là, on rentre dans le précaré.
Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Nadia ?
Là, ça fait partie de mon quotidien. Je fais partie du palais maintenant. Pendant quelques mois, je fais partie du palais. Voilà. C'est vrai, c'est.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. C'est l'interrogatoire de Salah Abdeslam sur le soir du 13 novembre 2015. C'est un jour où votre cœur bat plus vite, Nadia. C'est un jour important, c'est un jour que vous redoutez.
Non, c'est un jour comme un autre actuellement. Ça aurait été valable il y a peut-être au mois de septembre. Quand encore, on essayait de comprendre ce qui se passait. Là, ça devient, j'ai aucun a priori. J'arrive là comme hier et c'est en fait quand je vais arriver à l'intérieur que je vais être saisie par, je pense, la présence des journalistes. Et c'est dans la salle, quand je vais voir qu'il y a beaucoup de monde, que je vais réaliser que c'est un jour pas comme les autres.
Voilà.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Dernier barrage de gendarmes avant la porte de bois.
Entrée des professionnels, entrée du public.
Et là, on va passer par les portiques de sécurité, les derniers. C'est très impressionnant, on se croirait dans un hall d'aéroport. On est fouillé, on voit voir dans sa bouteille d'eau, prouver qu'elle ne contient pas de liquide dangereux. Tout passe au portique, y compris les micros de France Inter.
Merci à vous, bonne journée.
Je m'installe habituellement dans la rangée de gauche, au fond de la salle, face à la cour, le plus loin possible du box. C'est ma place. J'ai essayé une fois d'aller vraiment devant, à part le jour où j'ai témoigné. C'est le seul jour où j'ai vraiment été très en avant. Mais dernièrement, j'ai essayé d'aller devant pour aller retrouver une amie. Je suis arrivée à la moitié de la salle, j'ai fait demi-tour. Ouais, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Oui. Je veux pas.
Alors, vous avez témoigné, Nadia, dans les premières semaines de ce procès, au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez eu besoin de dire à cette barre? Qu'est-ce que vous avez dit, Nadia?
Alors, ce qui était compliqué, c'était déjà de parler de ma fille. Donc ça, c'était compliqué, mais je voulais aussi parler d'elle, puisqu'il fallait, c'était l'endroit. Et donc ça, c'était sortir de l'anonymat, ma fille, vis-à-vis des accusés, en fait. Donner une figure, une image, l'incarner.
Donc vous avez tenu, le jour de votre déposition, à montrer une photo de Lamia...
La dernière.
Devant la cour, la dernière photo.
La dernière.
Et à la barre, lors de votre déposition, vous avez aussi parlé aux accusés avec des mots très forts. Qu'est-ce que vous teniez à leur dire, vous ?
Il y avait plusieurs niveaux dans mes messages. En fait, quand j'ai appris, quand nous avons appris pour Lamia, et que j'ai appris tout de suite l'âge des assassins, certains sont nés en 85, d'autres en 88, 90, donc c'est la même génération. Première réaction, ça a été quel gâchis. Et c'est peut-être ça qui était le message aussi. Ces enfants, c'est ça que j'ai dit. C'était des petits bouts de choux. Voilà, j'aurais pu être leur mère, j'ai dit. Et ces anges, je dis, ces anges se sont transformés en monstres.
Et ces mots que vous avez prononcés, Nadia, ont fait réfléchir certains accusés. Quelques mois après votre déposition, Sofiane Ayari s'est levée dans son box, un accusé qui est tunisien, il a 28 ans. Il expliquait qu'il n'avait pas spécialement prévu de s'exprimer devant la cour, il n'avait pas spécialement l'intention, a priori, de parler au magistrat lors de son interrogatoire. Et puis, il a dit qu'il allait parler parce que vous l'aviez touché. Comment vous avez vécu ça ?
Ça m'a bouleversée, en fait. Je vais pas... Ça m'a bouleversée et en même temps, c'est un moment d'humanité, en fait. Je sais pas comment le définir. Ça m'a retournée. Et le fait qu'il ait parlé, j'ai été remercier ses avocats. Je lui dis, vous lui direz merci. Merci d'avoir parlé, d'avoir expliqué quand même quelque chose. Non, il a ouvert une fenêtre. Un début d'explication par rapport à ceux qui partent.
Et puis juste après, oui. Salah Abdeslam, lors de son premier interrogatoire sur les attentats, lui aussi parle de vous, de votre témoignage, et il se dit même prêt à vous aider.
Oui, oui, avec qui il était prêt à parler, et... un café et m'aider, voilà. Peut-être, si je l'ai touché ou si ça le fait réfléchir, pourquoi pas.
Vous allez presque tous les jours au procès, depuis le début. Qu'est-ce que vous venez chercher à ce procès ?
Suivre en temps réel une partie qui m'appartient. Voir concrètement, déjà les voir, les entendre, les concrétiser. Je n'imaginais pas qu'un procès qui traite d'une partie de mon histoire se fasse sans que j'y sois. Quand je ne suis pas à l'audience, je suis le procès sur la web radio. Donc, en fait, je ne déconnecte jamais du procès. Mais je reste encore avec cette idée que ce que j'ai vécu, la perte de ma fille, un attentat terroriste à Paris, un procès d'assises, j'ai toujours l'impression que c'est un film que je vis. J'arrive pas à croire que c'est réel. J'arrive pas.
Ouvrez ! Barrez-vous, barrez-vous ! Il y a des attentats, il y a des attentats !
Vendredi 13 novembre, ce soir-là, le Stade de France de Saint-Denis accueille 80 000 spectateurs pour la rencontre amicale France-Allemagne. Le match vient de commencer lorsqu'une voiture conduite par Salah Abdeslam dépose trois hommes aux abords de l'enceinte. Ahmad El Mohamed, originaire d'Irak, vient d'activer son gilet composé de TATP, de piles et de boulons. Deuxième explosion. Le corps du kamikaze syrien Mohamed El Mahmoud, qui avait tenté de rentrer dans le stade, est pulvérisé. 21h53, rue de la Coquerie, cette fois-ci, Bilal Atfi, un Français de 20 ans résident en Belgique, actionne son gilet. À 21h24, Brahim Abdeslam, Shaki Bakrou et Abdelhamid Abaoud sortent de leur véhicule et tirent en rafale sur les clients du bar Le Carillon et du Petit Cambodge. Les assaillants remontent dans leur voiture puis s'arrêtent 400 mètres plus loin à l'angle de la rue de la Fontaine-au-Roi et de la rue du Faubourg du Temple. Il est 21h32. À 21h36, les terroristes sèment encore l'effroi et la mort au 92 rue Charonne à la Belle Équipe. Le périple meurtrier des terroristes va s'achever au comptoir Voltaire. Brahim Abdeslam pénètre seul dans le bar, échange quelques mots avec une serveuse, puis actionne son gilet explosif. Il est 21h40.
Au même moment, sur ce même boulevard Voltaire, à 2 km vers le centre de Paris, une Polo noire s'arrête devant le Bataclan. À l'intérieur, trois autres hommes armés de fusils d'assaut. Sami Amimour, un jeune de Drancy, Omar Mostefaï, qui s'était installé à Chartres, et le plus jeune, Foued Mohamed Agad, qui a grandi en Alsace.
Mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé.
L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu au Bataclan, où 1500 spectateurs sont venus assister au concert du groupe de rock américain Eagles of Death Metal. Vers 22h, un des djihadistes est abattu par un policier qui est parvenu à pénétrer dans le Bataclan. Il faudra attendre minuit 18 pour que l'assaut soit donné. Les derniers terroristes sont tués. Dans la salle, c'est un véritable carnage avec 90 morts et des centaines de blessés. Ce 13 novembre 2015, 130 personnes ont perdu la vie.
Jamais Paris et la France n'avaient été attaqués de la sorte. À
ce procès des attentats du 13 novembre, presque chaque jour depuis 9 mois, on voit sur les bancs des partis civils Aurélie, jolie jeune femme blonde aux grands yeux bleus, un sourire doux et quasiment toujours du rouge à lèvres. Aurélie est une veuve du Bataclan. Son mari, Mathieu, a été assassiné dans la salle de concert. Le 13 novembre, ils avaient ensemble un petit garçon de 3 ans et elle attendait leur deuxième bébé, une petite fille qui est née 4 mois après les attaques. Aujourd'hui, Aurélie nous a donné rendez-vous chez elle après l'audience.
Merci de nous accueillir.
Avec plaisir.
Chez vous.
Bienvenue.
Dans votre intimité.
On va se mettre dans la cuisine, je pense. Je vous offre un café. Avec plaisir.
Allez. Vous en prenez un.
Je ferme la fenêtre.
Bien sûr. Un grand.
Deux.
Ok. Deux cafés.
Bah, je m'appelle Aurélie Sylvestre. J'ai 41 ans. J'ai deux enfants. Un petit garçon de bientôt 10 ans qui s'appelle Gary. Une petite fille qui s'appelle Thelma, qui a 6 ans. Leur papa s'appelait Mathieu et il est mort, assassiné au Bataclan le 13 novembre 2015.
Merci beaucoup. Aurélie, je vous vois depuis le premier jour au procès et vous êtes là presque tout le temps. Qu'est-ce que vous avez ressenti le premier jour ?
Bah, je me suis vraiment fait surprendre, quoi. Je me suis fait faucher en fait par les émotions. Comme je n'avais pas anticipé ce moment où j'allais y aller. Je me suis vraiment retrouvée en 5 minutes assise. On s'est assis au fond. J'ai une image d'un monde fou, en fait. D'un silence assez... de cathédrale, un peu. Ensuite, il y a eu la présentation des terroristes. Donc c'est impressionnant, en fait. Quand ils se lèvent. En plus, Salah Abdeslam qui a érupté direct. Là, j'ai eu peur, en fait. Il m'a fait peur. J'ai ressenti quelque chose de très physique. Je me suis vraiment tendue. Mais ça, c'est quelque chose d'assez perturbant. En fait, dès que lui, il parle, j'ai mon corps entier qui réagit. Et ça a commencé le premier jour. Mais en plus, il n'avait pas parlé depuis 6 ans. Ça faisait vraiment première fois, quoi. Donc là, ouais, j'ai eu peur. Et puis après, ils sont quand même 14. C'est beaucoup, quoi. Et puis ensuite, il y a eu cette chose de la liste des noms des victimes. Et ça, ça a été un moment incroyable, en fait. Enfin, c'était la deuxième fois que je l'entendais. Je l'avais déjà entendu... aux Invalides, mais à ce moment-là, j'étais en dissociation complète. Je pense que j'ai entendu sans entendre, mais là, le président a égrené le nom des victimes. Et c'était un moment, je pense que ça a été presque un des moments les plus forts pour moi. Parce que ça raconte quelque chose sans rien dire. Et que ça, c'est très puissant, en fait. Voilà. Ça, c'était le premier jour.
Et de jour en jour, de mois en mois, je vous ai vu changer de banc, en fait. D'abord, tout au fond de cette immense salle d'audience. Et puis, je vous ai vu vous approcher du box des accusés. Vous avez eu moins peur d'eux ?
Ça s'est fait assez naturellement, en fait. Je sais pas, je pense que ça correspond vraiment à l'expérience que j'ai dans ce procès, en fait. C'est-à-dire que j'arrive sur la pointe des pieds avec un bonnet et une capuche et un masque. Petit à petit, je pense que j'ai compris les enjeux, ce que j'allais en tirer, ce qui allait se passer pour moi. Et donc, oui, je me suis rapprochée, je pense, symboliquement.
Et je vous vois arriver chaque jour avec deux cahiers. Un cahier noir et un cahier jaune.
Dans mon cahier noir, je note tout ce qui a un rapport avec les faits. Et sur le cahier jaune, je note plus mes émotions, en fait, ce qui se passe pour moi pendant cette traversée, quoi.
Vous acceptez de nous montrer votre cahier jaune ?
Ouais.
Le cahier des émotions ?
Ouais. Voilà, il y a des dessins de mes enfants, des ordonnances et puis des étoiles parfois quand j'en ai marre et puis des notes. Voilà. C'est parfois un peu brouillon parfois.
C'est un joli cahier surligné.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Est-ce que vous acceptez de nous lire quelques pages du cahier des émotions ?
Après voilà, il y a des pages qui sont très intimes, très très personnelles, mais il y a le vendredi 10 décembre. C'est un jour particulier, le vendredi 10 décembre, parce que c'est le jour où le père de Sami Amimour, donc un des terroristes du Bataclan, vient témoigner. C'est le premier jour où les familles des terroristes viennent s'exprimer. Et c'est un jour qui a vraiment été une bascule pour moi. Donc je peux essayer de vous lire cette page-là. Voilà. Donc vendredi 10 décembre. J'arrive en retard, l'audience a commencé. Je m'assieds au fond de la salle pour regarder les écrans. C'est là qu'on voit le mieux ceux qui parlent et aujourd'hui on écoute le père de Sami Amimour. Cette nuit, j'ai échappé à une nouvelle fusillade dans mes rêves. J'ai hâte que ça cesse ces cauchemars récurrents. En arrivant, je pense, pauvre homme, il a perdu son fils. Immédiatement après, je me tase en me rappelant que le fils de cet homme a tué Mathieu. À la barre, un petit homme a l'air fragile, mais pas si stressé. Veste saharienne entre le beige et le vert très clair. Je pense, petite chose. Il raconte qu'il n'a rien vu venir. Que quand son fils est devenu religieux, ça l'a plutôt rassuré. Il dit, c'est mieux que dealer. Il n'a pas compris que Sami partait en Syrie. Le président lui pose des questions. Il a un ton ferme, aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise avec ça. Entre parenthèses, pourquoi ? Le père Amimour est allé en Syrie pour récupérer son fils. Il reste 4 jours et ne lui parle presque pas. Débat sur les dates de son séjour. Il dit, je me souviens de la date parce que c'était pendant la Coupe du Monde et moi je suis les matchs. J'écris, ce truc de la vie quand même, slash, la lumière de la vie normale qu'on distingue sous la grande porte de l'horreur. Je pense, on peut être terroriste et aimer les yops. Entre parenthèses, je souris à cette idée, j'aurais tant besoin de rire. Le père Amimour est affaissé sur sa chaise, attitude presque désinvolte. Est-ce qu'il va m'agacer quoi qu'il fasse ou dise ? Me vient l'envie d'aller lui parler après. Une angoisse monte, sourde, agitation sur les bancs des parties civiles, début de colère chez les victimes. Mon angoisse se transforme en larmes. Je pleure pour la deuxième fois depuis le début du procès. Je suis accablée par cette somme d'incompréhension, je me sens perdue. Je passe de l'empathie à la colère dans un va-et-vient permanent. Quand je me connecte au fait que cet homme est le père de l'assassin de Mathieu, angoisse. Quand je le vois se débattre avec ses manquements de père en racontant qu'il a tout essayé, empathie. Quand je le vois avachi sur sa chaise, ne réagissant pas au récit des horreurs que son fils a commises, colère. Je ne vais pas tenir, j'ai mal partout. Ce procès me traverse, physiquement parfois. Je viens ici pour comprendre. Aujourd'hui, je saisis que ma démarche est peut-être vaine. Voilà. Mais après, je suis partie, en fait.
En larmes.
Je pense que j'ai ravalé mes larmes au bout d'un moment. Mais c'était, oui, c'était une tempête, quoi.
Parmi les centaines de parties civiles, il y a des proches de victimes, comme Aurélie, dont le compagnon a été assassiné, et aussi de nombreux blessés. Et même ceux dont les blessures physiques sont refermées restent bien sûr profondément traumatisés. C'est le cas de Yann. Sophie Parmentier le rencontre pendant une interruption de l'audience.
Interception sur France Inter.
Chaque après-midi, quand le président de la Cour annonce la suspension, la plupart des victimes sortent s'aérer sur les marches du palais. On va retrouver sur ces vieilles marches de pierre blanche Yann, qui est un survivant du 13 novembre 2015. On s'approche de vous. Bonjour.
Bonjour.
Peut-être que vous pouvez nous dire comment vous voulez qu'on vous présente.
Moi, je suis partie civile dans ce procès. J'étais blessé au petit Cambodge le 13 novembre 2015. Et je suis le procès quotidiennement, presque.
Ouais, vous faites partie des rescapés qu'on voit quasiment chaque jour à ce procès depuis le mois de septembre. Ouais. Et presque chaque jour, en fait, je vous vois, dès qu'il y a une suspension, sortir sur les marches, là, avec les autres victimes qui ont souvent leur cordon rouge autour du cou. Pour signaler qu'elles n'ont pas tellement envie de parler aux journalistes, où vous avez enlevé votre cordon rouge. C'est un besoin, en fait, que vous ressentez quand vous sortez de la salle d'audience, là, à chaque suspension.
Ouais, tous les à côté du procès comptent aussi pour nous, en tant que partie civile. C'est vrai que ce procès a été beaucoup de rencontres en dehors de la salle d'audience, entre parties civiles. Et effectivement, ces pauses sont le lieu de discussions entre parties civiles, de discussions avec les avocats.
et avec des journalistes aussi. On est tous, comment dire, on est tous dans cette salle d'audience, on fait tous partie de ce procès, d'une manière ou d'une autre. Alors on est quelques-uns, je crois qu'on est 2300 parties civiles aujourd'hui, me semble-t-il, peut-être un peu plus. Évidemment, on ne va pas rencontrer tout le monde, évidemment, tout le monde n'est pas dans cette salle d'audience, c'est un choix très personnel. Mais ça me fait du bien, ouais. Ça me fait du bien de rencontrer. Oui, peut-être qu'on prend soin les uns des autres parfois, ouais, c'est possible. Dès le début du procès, on a commencé très vite à entendre des témoignages de parties civiles. Et c'était extrêmement difficile, c'était un moment extrêmement fort, extrêmement beau aussi et humain, j'ai trouvé. Au départ, je venais chercher plus de compréhension sur ce qui s'était passé ce jour-là. Donc j'étais beaucoup plus intéressé par l'enquête, par ce que pouvaient dire les accusés, mais au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai compris qu'on n'obtiendrait pas beaucoup plus d'informations de la part des accusés, ou alors des informations dont on ne peut pas être certain. Donc l'enquête continue à m'intéresser, mais c'est vrai que ces témoignages, je m'y attendais pas, m'ont complètement changé, certainement. Après, on a été touchés par ça parce que quelque part, ça nous fait revivre ce qu'on a vécu.
Et sur votre lieu d'attentat, le petit Cambodge, vous avez entendu ces dernières semaines, je crois, des familles touchées que vous n'aviez jamais vues depuis les attaques.
Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, plus que ce que je pensais, pour moi. Ouais. Et là, la semaine dernière, ça a été dur quand les familles les victimes du petit Cambodge sont venues, ça a été beaucoup plus dur que ce que j'aurais imaginé. Ouais.
Pourquoi ça a été beaucoup plus dur ?
Ce jour-là, c'était des familles, des gens qui ont perdu la vie à côté de moi. Donc forcément, c'est un des chocs de ce soir-là. Il y a plusieurs chocs ce soir-là. Il y a des personnes qui veulent nous enlever la vie sans qu'on s'y attende. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais blessé, j'ai été immobilisé dans cette cuisine du petit Cambodge. Et quand je suis sorti du restaurant, le deuxième grand choc a été de voir de voir l'ampleur des dégâts et de voir les personnes
qui étaient mortes à côté de vous.
Bah ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et donc ça, c'est. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de. J'ai l'impression que ce témoignage, ça soulève la terre au fond d'un lac, et après il faut que ça redescende, il faut que l'eau soit à nouveau claire, et ça peut mettre beaucoup de temps.
Ces événements ont changé ma vie à jamais. Voici les mots de Jesse Hughes, chanteur du groupe de rock américain Eagles of Death Metal, qui se produisait au Bataclan le soir de l'attaque djihadiste du 13 novembre 2015. Il était auditionné ce mardi par la cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre du procès des attentats. Avec émotion, il a évoqué sa difficile reconstruction et son sentiment de culpabilité, alors que 90 personnes venues voir son concert ont été tuées ce soir-là. « Je pense aux familles des victimes tous les jours », a-t-il déclaré. Jesse Hughes a toutefois assuré avoir pardonné aux pauvres âmes qui ont commis ces actes, selon ses mots.
Je me sens mieux. J'étais entouré par l'amour et mes amis ici en France, et l'amour gagne.
Love wins.
Vous avez dit que vous leur aviez pardonné ?
Oui, c'est important de pardonner. Je suis chrétien et tout le monde peut être perdu et tout le monde a besoin de trouver le chemin et la plupart de ces messieurs le font, alors je leur pardonne et j'espère qu'ils trouveront eux-mêmes la paix de Dieu.
Là, on est dans l'un des couloirs du vieux palais de justice, sol de marbre, mur de pierre, juste à côté de la salle d'audience construite pour le procès des attentats du 13 novembre. Et on va aller à la rencontre de Maître Aheri, qui est l'une des brillantes avocates de la défense de ce procès historique. Bonjour Maître.
Ça va ?
Ouais, ça va très bien, merci.
Je vous laisse vous présenter au micro.
Je suis Negar Aheri, l'une des deux avocats de Mohamed Amri, qui est accusé au procès des attentats du 13 novembre d'avoir notamment ramené Salah Abdeslam le soir des attentats. Il aurait fait un aller-retour depuis la Belgique jusqu'à Paris, puis finalement en Belgique.
Qu'est-ce qu'il risque ?
Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Comment vous vous êtes retrouvée sur les bancs de la défense dans ce procès ?
Alors j'ai été commise d'office en 2016 parce que j'avais à l'époque emporté un concours d'éloquence. Donc quand vous avez un mis en cause dans une affaire terroriste qui n'a par hypothèse pas d'avocat, c'est vous qui êtes choisi en priorité. Et il se trouve que Mohamed Amri a été mis en examen devant le juge d'instruction français un jour qui correspondait à ma journée de permanence. Donc c'est initialement le fruit du hasard. Et puis finalement, il y a un lien de confiance qui s'est créé entre lui et moi. Et c'est la raison pour laquelle il m'a gardée, que moi j'ai accepté de rester pendant toutes ces années. Donc je l'ai suivi dans un premier temps pendant l'instruction, qui a duré 6 ans. Et puis toute cette année où j'ai vraiment eu l'occasion de le voir quotidiennement à l'audience.
Il y a eu à l'automne les témoignages de parties civiles. Pendant 5 semaines, des victimes survivantes et des familles endeuillées ont défilé à la barre. Et puis à nouveau, des parties civiles au printemps, alors que s'achève quasiment le procès. Vous, sur votre banc de la défense, est-ce que ça a été des moments compliqués ?
Ça n'a pas été des moments compliqués, ça a été des moments forts. C'est-à-dire que je crois qu'aucun d'entre nous n'a été insensible à ce qui s'est dit, ce qui s'est vu. On se rappelle tous de la soirée qu'on passait le 13 novembre. On est de la même génération que les victimes, plus ou moins. Donc on a une réelle empathie pour ces personnes qu'on a vues venir témoigner à la barre. C'est pas du tout une posture.
Parce qu'on a vu à la barre de nombreuses victimes dire qu'elles n'avaient pas de haine et qu'il était essentiel dans notre démocratie que les accusés dans le box soient défendus par les meilleurs avocats. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que vous aviez l'habitude d'entendre à d'autres procès ou qui vous a marqué à ce procès des attentats du 13 novembre ?
C'est la première fois de ma vie que j'entendais des victimes avoir ce type de propos. Et je dois en effet dire que c'est la chose qui m'a le plus marquée, voire bouleversée, en fait. C'est extrêmement fort de se dire qu'une personne qui a tout perdu est encore en mesure de considérer qu'en dépit du chaos, il faut qu'un état de droit se manifeste. Et qu'elle termine très souvent leurs propos en espérant un procès équitable, ça c'était quelque chose de très fort, parce que ça détonnait totalement du malheur qui les avait frappés. Évidemment, ce contraste était poignant.
Pendant les témoignages de parties civiles, est-ce qu'il y a eu des larmes sur les bancs de la défense ?
Alors, on ne se regardait pas les uns les autres pour savoir comment on réagissait, mais oui, enfin, on avait les masques pour se cacher, mais évidemment que derrière les masques, sous les masques, il y avait les larmes.
Si je vous demande l'image la plus marquante pour vous de ce procès ?
Il y a une image que j'ai trouvée assez folle. C'était au tout début de ce procès. Les audiences se terminaient très tard. On était à la lecture de l'acte de mise en accusation et les accusés avaient très faim. Et il se trouve qu'on avait des paquets de bonbons, de gâteaux sous la main et le président nous a autorisé exceptionnellement, je sais plus, il devait être 22h, 23h, à leur distribuer de quoi manger et ça a créé un lien. C'est comme si ça a brisé la glace, quoi. C'était un peu l'acte inaugural qui brisait la glace entre les accusés et l'ensemble des avocats de la défense. Et c'était un moment très fort. Il y a quelque chose de profondément humain qui émane de ce procès. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight. Kitchen chair, she broke your throat, she cut your hair, from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah,
On s'est éloigné de l'île de la Cité et du palais de justice. On a quitté Paris, cap sur une petite ville paisible, sous un ciel bleu. Dans les arbres, il y a des fleurs de printemps. Et on se dirige chez Catherine Bertrand, qui est une survivante du Bataclan.
Je m'appelle Catherine Bertrand, j'ai 41 ans. J'habite en banlieue parisienne et puis j'étais au Bataclan le 13 novembre. Mais je n'ai pas envie non plus qu'on me représente que en tant que victime d'attentat. J'ai aussi besoin qu'on me présente en tant qu'artiste. Voilà, quelqu'un qui crée, qui se relève avec les moyens du bord, c'est-à-dire la création artistique. Donc l'illustration et la peinture. Le dessin me permet de ne jamais être passive, ne jamais avoir à subir quoi que ce soit. Voilà. Je réponds en dessin. J'agis en dessinant.
Vous pouvez nous montrer vos dessins, ce que vous avez dessiné depuis le début du procès ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est quand Saleh Abdeslam a commencé à sortir ses grandes tirades dès le départ. Je refusais de le dessiner parce que je pars de loin. Pendant longtemps, je me suis dit non, mais c'est pas possible qu'un être humain puisse faire ça. Donc pour moi, c'était pas possible de les dessiner humainement parlant. Donc je les représentais la plupart du temps avec l'arme qu'ils ont utilisée pour commettre les attentats. Et donc Saleh Abdeslam, je le symbolisais en gilet explosif avec des yeux et une barbe.
Donc là, en effet, on voit sa barbe, très sommaire. Vous avez dessiné son gilet à la place de, au milieu de son visage, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. En fait, les trous du gilet, ce sont ses yeux. Il est son arme. Son arme et lui ne font qu'un. Et je le définis en tant que bombe, en fait. C'est une bombe pour moi. C'est juste un gilet explosif à barbe. Voilà. Je refusais d'accepter qu'un être humain puisse faire ça. C'était trop pour moi. Mais là, je parle au passé, parce que entre-temps, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin. J'ai compris à quel point c'était aussi des êtres humains. J'ai eu vraiment le côté thérapeutique du procès. Faire un portrait d'un terroriste, pour moi, c'était inimaginable encore l'année dernière. Donc je sais, je sens que j'ai avancé, que j'ai progressé. Donc je suis passée de la peur à de l'angoisse à affronter. Affronter, les regarder. J'ai l'impression de reprendre le contrôle un peu de ma vie. Et voilà. Donc en février, j'ai réussi à le dessiner.
Le 9 février, premier interrogatoire de Saleh Abdeslam sur les faits. Et là, vous le dessinez avec un vrai visage.
Ouais.
Cette fois, ses yeux ne sont plus les trous du gilet explosif. Ouais. Il a un visage, sa barbe.
Sa barbe, une bouche, un nez, il a les cheveux, les oreilles.
Il portait une chemise ce jour-là ?
Oui, il portait une chemise. Et en fait, derrière lui, il cache son gilet explosif. Donc c'est un peu comme si il y avait un peu un transfert, parce que au début, je le dessinais en gilet explosif, donc c'était lui. Maintenant, il sort du gilet explosif, mais il le cache derrière lui. C'est un peu comme si... il a essayé de un peu sauver sa peau et essayer de minimiser au maximum son implication dans les attentats. Mais bon, personne n'est dupe. On ne sait pas si il a renoncé ou si ça n'a pas fonctionné. Ou si juste il y avait un problème sur le gilet qui fait que ça n'a pas explosé.
Certaines des victimes ont fait le choix de se détacher complètement du procès. Sans occulter les attentats qui, de toute façon, les ont marqués à vie, ils affirment leur besoin de tourner la page. L'un des plus emblématiques est Pierre Cabon. Il est paraplégique depuis le 13 novembre 2015, ce qui ne l'a pas empêché, accompagné par sa femme Myriam, rencontrée quelques mois avant les attentats, de se lancer dans un tour du monde en fauteuil. À la tête de leur association, devenue une entreprise, Wild World, littéralement le monde sur roue, ils ont décidé de faire partager à tous leur passion des voyages. Et c'est donc loin du palais de justice que Sophie Parmentier les retrouve.
Ok, relâche.
Oui.
On fait que 10. On va essayer d'aller chercher 15 et 15.
Ouais.
Okay. On va voir si on en fait 8, c'est très bien.
Ouais.
Okay. Et on va essayer de voir comment on va en faire.
Donc là, Pierre, vous avez un gros élastique jaune dans chaque bras pour muscler les bras.
L'idée des élastiques et de les tirer, en fait, c'est simplement pour aider à travailler tout ce qui est rotation et justement faire améliorer la mobilité des pectoraux, des épaules, de manière, parce que vu que c'est ce que j'utilise tout le temps, il faut bien qu'ils soient en pleine forme le plus longtemps possible.
Allez, c'est reparti, deuxième minute. Voilà. Essayez d'amener les coudes derrière. Voilà.
On se retrouve dans une salle de sport, très loin de la salle d'audience. Le procès touche bientôt à sa fin. Vous, Pierre, vous êtes partie civile. Vous ne vous êtes jamais rendu dans la salle d'audience.
Oui, non, je me suis jamais rendu en fait dans cette salle de procès. En fait, il y avait une... C'est peut-être pas une volonté de ne pas voir ce qui s'est passé ou de ne pas participer à cet événement, mais c'était simplement nous qui avions déjà, entre guillemets, tourné la page. On avait vraiment un détachement complet de ce qui pouvait s'y passer, et puis évidemment on voit exactement les grands moments qui passent dans les journaux, et on suit ça quand même avec attention, même de loin.
Alors racontez-nous, parce que ça paraît totalement dingue, alors que le procès va bientôt s'achever, vous êtes là en entraînement intensif pour préparer quoi? Quel défi? Racontez-nous.
Voilà, en fait, on s'était fixé pendant notre tour du monde à l'été 2020 l'ascension du Kilimandjaro côté tanzanien. Et en fait, cette ascension, c'était un défi qu'on s'était fixé. En fait, c'est la seule montagne de 6000 mètres qui est faisable en randonnée, on va dire, sans escalade, sans alpinisme requis. Le Covid nous a empêchés de le faire, mais peut-être presque heureusement, parce que comme ça, maintenant, cette année, avant de le refaire, on s'est dit on va faire une vraie préparation physique, on va vraiment se lancer dedans.
Et Myriam, votre épouse sera juste à côté de vous, va grimper avec vous. Vous n'êtes jamais très loin l'un de l'autre depuis le 13 novembre 2015.
Non, clairement, je ne pourrais clairement pas faire cette ascension sans elle. C'est un défi qu'on s'est lancé tous les deux et qu'on a envie de partager au plus grand nombre et de montrer qu'en fait on peut repousser ses limites toujours et encore. Et voilà, et en fait on a juste envie de se dépasser.
Et toujours cet immense sourire sur votre visage.
Ben oui, la vie est belle, on en profite à fond et on n'a qu'une envie, c'est de continuer sur cette voie-là.
Quand vous êtes dans cette salle ou ailleurs, le soir des attentats, vous n'y pensez plus? Ou parfois, en fait, même si vous êtes resté à distance du procès, le fait que vous ayez malgré tout suivi un peu les informations, est-ce que vous avez été percuté parfois par ce qui s'est passé, même si c'était loin de vous? Est-ce que c'est revenu, que ça vous a assailli un petit peu, ou jamais?
Non, enfin, ce soir-là, oui, évidemment, il est toujours dans nos têtes, mais en soi, on n'y pense jamais. On est bien trop occupé aujourd'hui avec... justement, à voyager, à échanger, à faire des conférences, à transmettre notre histoire, qu'on n'y pense plus.
Vous pensez plus au soir des attentats?
Non, enfin, on sait qu'il est là, et parce que je suis en fauteuil et ça nous le rappelle tous les jours, mais en soi, c'est pas ce soir-là qui nous définit. Donc, c'est ce qu'on fait de notre vie.
Non, vous souhaite une bonne séance d'entraînement.
Merci.
Et bonne chance pour le Kilimandjaro.
Merci beaucoup.
Quand Pierre et Myriam partiront à l'assaut du Kilimandjaro, le procès des attentats du 13 novembre sera en train de s'achever. Le verdict est désormais prévu fin juin. Dans la grande salle d'audience, pendant 9 mois, on a vu les 14 accusés évoluer. Au premier jour, Salah Abdeslam s'est revendiqué fièrement comme un combattant de l'État islamique. Et à la fin de son dernier interrogatoire, en avril, il a versé quelques larmes et demandé pardon aux victimes. Ses excuses ont marqué ce procès. Mais l'un des jours les plus bouleversants restera ce jeudi d'octobre, où Aurélie Sylvestre a laissé ses 2 cahiers sur le banc et s'est avancée vers la barre, un texte à la main. Pendant 30 minutes, d'une petite voix très douce, elle s'est adressée à la cour.
Voilà mon histoire. Le 13 novembre 2015, j'ai 34 ans. Je vis dans le 10e arrondissement de Paris avec Mathieu. Nous sommes en couple depuis près de 15 ans. On a le plaisir de vivre la vie que nous avons dessinée ensemble. Il y a toujours de la musique chez nous et une bouteille de whisky prête à égayer tout ami qui aurait envie de passer à l'improviste. Nous avons un petit Gary de 3 ans qui court dans tout l'appartement et mon ventre s'arrondit chaque jour un peu plus. Après 2 fausses couches douloureuses, j'ai enfin un bébé qui grandit dans mon ventre. On sait que ce sera une petite fille, c'est l'échographe qui nous l'a annoncé le 6 novembre. On est fous de joie et nous savourons notre chance de nous aimer si fort, d'avoir des projets, des rêves et la vie devant nous pour les réaliser. Le 13 novembre 2015, vous l'aurez compris, Mathieu et moi on est plutôt heureux et donc la journée s'annonce bien. On dîne tous les 3 et Mathieu commence à ne plus avoir très envie d'aller à ce concert. À 21h46, le 13 novembre 2015, il m'envoie un texto pour me dire « ça, c'est du rock'n'roll ». Je ne lui réponds pas. Je n'ai rien à dire à ça. Le 13 novembre 2015, en quelques heures, je suis devenue veuve et victime de terrorisme. Les deux. Je suis devenue une athlète du deuil. Mathieu n'est pas que mort. Mathieu a été assassiné lors d'une tuerie de masse. C'est pour ça que j'ai décidé de venir au procès. Pour comprendre et si possible faire le tour de cette immensité-là. Alors je continue à venir ici. Et chaque jour, je remplis un peu plus mes cuves d'humanité. J'entends des histoires de héros de coin des rues et je les rapporte à mes enfants le soir. Je leur raconte ce frère qui a sauvé sa sœur en la plaquant au sol. Et moi, je ne suis pas prête de me remettre de l'histoire de ce policier qui s'est couché sur le terroriste pour que les otages puissent passer après l'assaut. Je dis aussi à mes enfants qu'un soir, quand il se faisait tard, des parties civiles ont fait passer de la nourriture aux accusés. Et même que les avocats se sont cotisés pour payer une bonne défense aux méchants. Je peux expliquer à mes enfants qu'il n'y a que ce qui est équitable qui est juste.
« 13 novembre, l'humanité au bout du procès », c'était un reportage de Sophie Parmentier. Prise de son Alexandra Bergel, Julien Girard, Yves Lehors, Christophe Papon et Thomas Robin. Réalisation Jérôme Chélius, assisté par Martine Messonnier. Mixage Philippe Thibault. Reportage déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr.